Quand vous touchez à votre corps, quand vous touchez votre corps, vous touchez des atomes qui ont été faits dans des étoiles il y a plusieurs milliards d'années. Donc, nous sommes les enfants des étoiles.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
What's the best about you? What's the best about you? What's the best about you?
It's the interview. C'était pas mis d'accord sur le premier mot, je crois.
Non, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un nouveau format. On n'a pas vraiment de nom, le nom dépend à chaque fois de chaque invité. C'est un format où on va avoir une personnalité et à travers une série de questions, on va en apprendre plus sur elle. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'un nouveau format du meilleur podcast. Je suis Tom, comme Cyrus l'a dit effectivement, ça va être un format d'interview qu'on vous propose aujourd'hui dans lequel nous allons recevoir Hubert Reeves. Monsieur Reeves, merci beaucoup d'être présent parmi nous.
Bienvenue et puis merci de m'avoir invité à ce podcast.
C'est un plaisir et c'est vraiment un honneur.
Un honneur, disons-le, si ouais. N'ayons pas peur des mots. Ne boudons pas notre plaisir.
Je sais pas d'ailleurs comment on va faire pour les prochains invités, Tom, parce que oui. Le niveau est très très
haut. Moi, je suis le numéro de Platon que je pense inviter bientôt. Donc comme Cyrus vous l'a dit, on va discuter ensemble, on va revenir un petit peu sur les principaux éléments de la carrière et de la vie de Monsieur Reeves, de Hubert. On peut vous appeler Hubert ?
Absolument.
On part sur Hubert. Mm-hmm. De votre vie, Hubert, en revenant un petit peu sur vos travaux et parlant de tous les domaines scientifiques, astrophysiques, de cosmologie, d'humanisme, d'écologie, des thèmes qui sont importants pour vous. À travers des questions sur lesquelles on va questionner le meilleur de votre vie et de votre carrière.
Exactement. Et pour ça, on a une petite rubrique en ce début d'émission.
Parce que vous nous connaissez, si vous écoutez le meilleur podcast, on aime bien les rubriques.
On aime les rubriques. C'est le bio ou pas bio.
Alors, rien à voir avec un label de nourriture, par exemple.
Ou en gros, on va donner une série de facts. Certains correspondent à votre biographie et d'autres sont purement... Inventé
ou fabulé. Hubert, n'hésitez pas à la fin de chaque fait de nous dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux et à les corriger s'ils sont faux.
Mm-hmm. D'accord.
Vous avez été conseiller scientifique de la NASA de 1960 à 1964 ?
Oui, c'est tout à fait juste. En fait, plus, j'ai continué plus tard, mais en gros, c'est ça. J'étais conseiller scientifique. C'est une histoire qui va comme ceci. On est en 59-60. C'est le moment où les Russes lancent leur Spoutnik. Alors, les Américains sont vraiment aux abois parce que les satellites russes passent au-dessus de New York et les Russes disent « On a les communistes au-dessus de nos têtes, vous les entendez ?» Dans les rues, il y avait des gens qui se promenaient avec la radio « C'est les communistes, ils sont au-dessus de nos têtes !» Tic, 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 tic. Et c'était donc un événement nouveau auquel il fallait s'adapter rapidement. Et cette situation était assez bloquée aux États-Unis. Il y avait des travaux de facture spatiale, c'est-à-dire envoyer des satellites, des fusées et tout ça. Mais c'était bloqué parce qu'aux États-Unis, pour les forces armées, il y a l'armée, la marine et l'aviation. Les trois avaient leur programme de recherche spatiale qui se coupait, qui se jalousaient les uns les autres et ça bloquait. Et c'est le moment où Kennedy a dit « on ne peut pas supporter ça, on ne peut pas supporter d'avoir les Russes en avance sur nous ». Donc il a dit « je mets ensemble les trois, vous vous arrangez entre vous et vous devenez la NASA ». C'était la naissance de la NASA. Mais avec la NASA, ça voulait dire qu'on allait envoyer des satellites dans l'espace, qu'on allait prendre des quantités de mesures, la température sur Jupiter, la pression sur ci et sur ça, qu'on allait arriver avec des quantités de chiffres qui allaient nous arriver, ce qu'on appelle Big Data aujourd'hui,
oui.
Et qu'il y aurait personne pour les étudier. Alors, les universitaires se sont dit, il faut absolument que l'on fasse dans les campus universitaires des départements de recherche de l'espace, Space Science. Okay. Il y avait bien sûr déjà de l'astronomie, mais les astronomies, c'est les télescopes. Là, ce n'était plus les télescopes, là, c'était les antennes radio qui allaient aller sur ces différents endroits et prendre des mesures. Et donc, il fallait en vitesse préparer pour les grandes universités américaines, qui se vantent, et avec raison, d'être les meilleurs au monde. C'est assez vrai, je pense, mais quand même. Il leur fallait quelque chose qui soit de la nature à la hauteur de leur valeur dans les autres domaines. Donc, du coup, il fallait rapidement faire des départements de sciences spatiales, space science. Mais évidemment, il faut avoir des professeurs. Il n'y avait pas de spécialistes de ces domaines. Donc, la NASA a décidé, pendant plusieurs étés, de faire des cours équivalents des écoles d'été. Pendant tout l'été, il y a des professeurs venaient préparer une centaine d'étudiants qui étaient venus du monde entier. Alors, c'était la période FAST. On avait un Boeing à notre disposition pour aller visiter les centres, que ce soit Cap Canaveral en Floride ou JPL en Californie.
C'est une bonne voiture de fonction, quoi.
Voilà.
Sympa.
Et moi, je venais de terminer ma thèse. J'étais à l'Université Cornell. Et des gens m'ont appelé en disant « Voulez-vous faire cela ? C'est bien payé. » Évidemment, ça, j'ai dit oui tout de suite. Et je me suis retrouvé avec un groupe de professeurs, surtout d'astrophysique évidemment, mais de planétologie et tout ça. Et ensemble, on discutait beaucoup. Et là, j'ai rencontré des gens absolument formidables. En particulier, un professeur, qui, peut-être certains auditeurs auront entendu parler de lui, parce que c'était un professeur extraordinaire, c'était un homme d'une très grande culture. Il s'appelait Phil Morrison. Ses cours étaient tellement populaires que les gens venaient de partout à ses cours. C'était un infirme. Il avait eu la poliomyélite. Il avait des béquilles, tout ça. Et il approchait de ça. La foule était là qui l'attendait. Il approchait de sa chaise, son endroit où il grimpait, mais c'était un événement parce que le voir grimper, ça faisait un peu pitié, pour vous dire la vérité. Et là, il ouvrait la bouche. Il avait un sourire extraordinaire. Et il se met à vous parler, mais vous étiez vraiment complètement pris par son enseignement. C'était plein d'images, c'était plein de choses drôles, il y avait des blagues, mais c'était absolument fabuleux. Il nous parlait d'astronomie, c'était absolument fabuleux. Et quand, à la fin de ce cours, moi, j'avais envie de crier tellement j'étais emballé.
Okay.
J'arrivais pas à m'en remettre.
Séduit.
Absolument. Et j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance pour les gens qui m'apprennent des choses.
D'accord.
J'aime enseigner, mais j'aime aussi apprendre des choses. Et quand quelqu'un m'amène à comprendre quelque chose que je n'ai jamais compris, eh bien, je regarde une grande reconnaissance pour lui. Et donc, il y avait ce professeur, Phil Morrison, qui était autant spécialiste de la littérature française du Moyen Âge que de la musique hindoue. Il avait une culture absolument fabuleuse. Et lui m'a vraiment beaucoup impressionné. En particulier, je regardais ses comparaisons, ses façons d'expliquer, ses techniques et je trouvais tellement fabuleux que encore maintenant, souvent quand je fais des cours, je pense à lui, je le vois qui remonte sur sa chaise, qui se met à parler et la foule qui était complètement prise. Ça, pour moi, c'est un souvenir fabuleux dans le cadre de mon métier. Je me sers beaucoup de ces analogies, de tout ça, parce que c'était extraordinaire.
Puissant. Alors là, du coup, avec Tom, on va essayer de trouver quelque chose pour vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas déjà.
Oui, c'est mon nouvel objectif.
C'est l'objectif pour la prochaine heure.
Est-ce que c'est vrai ou faux ? Vous avez un astéroïde qui porte votre nom.
Oui, c'est vrai. Je peux vous dire comment ça s'est passé, je n'y suis pour rien. Bon, il y a beaucoup d'astéroïdes, il y en a des millions, je pense. Et on commence maintenant à les reconnaître, à les cartographier, parce qu'il y a toujours cette question, cette possibilité qu'un d'entre nous tombe
dessus.
Sur la tête. Mmh. Et maintenant, on les répertorie, on les observe pour connaître leur orbite et voir si, dans un avenir proche ou lointain, ils vont traverser une trajectoire qui va traverser celle de la Terre. Et cela, donc, c'est devenu, là, c'est l'Union astronomique internationale, c'est devenu une tradition d'en nommer quelques-uns, en tout cas, les plus dangereux. En fait, il n'y en a pas de dangereux, pour aussi bien vous dire tout de suite. Pour l'instant, on ne le connaît pas, même dans un avenir assez lointain. Mais c'est quand même toujours possible, donc c'est intéressant de les répertorier. Et cette Union astronomique internationale a décidé pour les nommer de demander, s'adresser encore aux universités, aux étudiants en astronomie, et dire, est-ce qu'on pourrait, vous voulez nous suggérer le nom d'un professeur que vous avez apprécié? Et donc, un groupe d'étudiants a donné mon nom. Donc,
ça, c'est classe.
Je suis content de ça. Je ne le verrai jamais, sans doute, parce qu'il n'est pas très gros. Hein. C'est à peu près la dimension du Mont Blanc, par exemple.
Bon,
c'est une bonne taille, mais à l'échelle astronomique, c'est très petit.
C'est quoi exactement un astéroïde, concrètement?
C'est un gros caillou.
D'accord.
C'est un gros caillou qui fait partie du système planétaire, c'est-à-dire qui tourne autour du Soleil, comme la Terre, comme les planètes. Il y a toute une collection de corps de différentes grosseurs, en partant des très gros qui sont Jupiter, Saturne, et puis les planètes comme la Terre, et puis ensuite de tailles plus moyennes, et puis jusqu'aux étoiles filantes. Les étoiles filantes sont aussi en la même situation. Ils tournent autour du Soleil. Une étoile filante, c'est gros comme un gravillon, hein? C'est vraiment tout petit. Et à l'occasion, là aussi, ils rencontrent l'orbite de la Terre, ils rencontrent l'atmosphère de la Terre, ils rentrent dans l'atmosphère, et là, à cause de la friction, parce qu'ils arrivent à 7-8 km à la seconde, à cause de la friction, ils fondent, ils se volatilisent, et puis c'est ça qui est fait la traînée lumineuse, qui est la traînée des étoiles filantes. Okay. Donc, les plus petits, les gravillons, les plus gros, les grosses planètes, mais ils ont tous en commun qu'ils font le tour du Soleil.
Alors, du coup, j'ai une question qui n'est pas directement liée.
On s'éloigne du conducteur, merci Cyrus.
On s'éloigne du conducteur.
On a été pro 8 minutes, merci.
Non, mais j'ai une question qui me vient dans votre explication de l'astéroïde. C'est-à-dire qu'un astéroïde, entre guillemets, qui est hors du système solaire, mais sur un autre, sur une autre étoile qui gravite autour d'une autre étoile, c'est quand même un astéroïde, non?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on en a deux maintenant qui viennent d'arriver et qui viennent d'une autre étoile. On le
D'accord,
sait parce qu'ils ont des orbites extrêmement allongées.
Ah, okay.
Parce que s'ils peuvent passer d'une étoile à l'autre, les étoiles, ils sont à quelques années-lumière de distance, c'est-à-dire années-lumière, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde pendant 4 ans. Vous voyez que...
Ouais.
Eh bien, on savait que c'était possible. On se posait la question. On se disait, est-ce que, puisque ces astéroïdes, ils vont tellement loin du Soleil, est-ce que ce n'est pas possible qu'ils viennent d'aussi loin que les premières étoiles? Et on se disait donc, dans ces conditions, il pourrait y avoir des échanges d'astéroïdes entre les différentes étoiles. C'était pendant longtemps une idée valable, mais on n'avait pas de cas. Et là, presque d'un coup, depuis... un ou deux ans, il y en a deux dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils viennent d'une autre étoile.
Et c'est la dernière, et Tom va m'en vouloir là. Dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a, par exemple, 1 million, mais il me semble que l'univers est infini. Du coup, pourquoi il n'y en a pas une infinité?
Ah, parce que... Alors, il faut là se remettre au début. Comment se forment les étoiles? Les étoiles, ça se forme à partir d'un grand nuage... un grand nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même, sur son poids. Ça produit d'abord une espèce de disque qui ressemble à Saturne. Et dans ce disque, le centre se condense et devient le Soleil. Et ceux qui sont plus loin se mettent sur des orbites plus lointaines et deviennent les planètes. Vous voyez, ça, c'est l'idée générale. Alors ça se fait un peu partout depuis très longtemps. Notre galaxie en contient des centaines de milliards de corps qui tournent autour de lui. Et puis évidemment, il y en a plus tout proche parce que la densité était plus grande, la densité de matière était plus grande. Et plus on s'éloigne, moins il y en a. Et à partir d'une certaine distance, il n'y en a plus simplement parce que les différentes étoiles sont à plusieurs années-lumière l'une de l'autre. Donc chacune a son cocon, si on peut dire, avec beaucoup de particules au centre, beaucoup moins là où c'est plus lointain, et puis ça recommence ailleurs. Donc il faut voir ça comme des espèces d'îlots qui s'étendent, mais qui ne s'étendent pas vraiment d'une façon continue. Il n'y en a presque plus après une demi-année-lumière, disons, et la prochaine étoile est à 4 années-lumière. Donc, vous voyez, ce sont comme des amas, des nuages cométaires. Ils naissent à partir d'un noyau. Et les noyaux sont loin les uns des autres.
D'accord.
C'est un peu ça la raison.
Vous êtes le père de Keanu Reeves?
Le père?
Ouais. Alors, bio ou pas bio, du coup?
Ça, non, je ne suis pas le père. Hein. Non, vous voulez savoir si c'est vrai ou pas vrai, non.
Vous n'êtes pas le père de Kinivari.
Aucune parenté.
Très bien. Okay. Vous avez été directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique à Paris, donc oui. Au CNRS, en 65.
Oui, c'est vrai.
Vous avez publié plus de 40 livres de vulgarisation scientifique et cosmique.
Oui, c'est à peu près. C'est pas très bien défini parce qu'il y a des livres dans lesquels je suis le seul auteur. Il y a d'autres livres qui sont auteurs multiples, donc c'est difficile de donner un nombre précis.
Vous écoutez beaucoup de musique
toute la journée.
Surtout du rap français.
Non, ça c'est pas vrai. J'en écoute occasionnellement, mais c'est pas mon domaine de musique favori. Non,
c'est quoi votre tasse de thé?
Mon domaine favori, c'est la musique classique, c'est Bach, c'est Mozart, c'est Schubert que j'aime beaucoup, Debussy, Ravel, Wagner, enfin un peu tous les... J'en ai besoin pour travailler.
En analysant le contenu en hélium-3 du vent solaire à partir d'une expérience réalisée grâce à la mission Apollo, vous et le physicien suisse Johannes Geiss. Vous avez pour la première fois donné une bonne estimation de l'abondance cosmologique du deutérium produit pendant le Big Bang.
Oui, c'est vrai ou faux? C'est tout à fait vrai, oui. C'est un travail de plusieurs années, mais qui a bien marché.
Et est-ce que vous pouvez essayer de nous simplifier un petit peu cette phrase qui contient beaucoup de termes techniques?
Oui.
Votre travail, il a consisté à quoi et il a abouti à quoi comme résultat?
Oui. Alors d'abord, je vous raconte l'événement. Quand vous vous souvenez, dans les années 60, les Américains envoyaient des sondes sur la Lune. Et le professeur Geiss, qui enseignait à l'université de Berne, a eu cette idée, on va aller porter quelque chose sur la Lune parce que le Soleil nous envoie de la lumière, mais envoie aussi ce qu'on appelle un vent solaire. Ce vent solaire, ce sont des atomes qui étaient dans l'atmosphère du Soleil et qui sont soufflés par ce très grand vent. Il y a un vent qui continuellement part du Soleil et arrive, va partout dans le système solaire, y compris vers la Terre. Et ce vent, quand il arrive sur la Terre, il produit les aurores boréales, ce qui est très joli, mais ce qu'il y a comme défaut, il n'arrive pas à la Terre. Donc vous ne pouvez pas recueillir ce vent pour essayer d'analyser, de savoir de quoi est composé le vent solaire. Et Geiss a eu l'idée de dire, oui, mais nous, on a l'atmosphère qui nous empêche de recevoir le vent solaire, mais la Lune, elle n'a pas d'atmosphère. Donc, il a eu cette idée de dire, on va envoyer sur la Lune des détecteurs qui vont enregistrer le vent solaire, l'analyser, nous dire de quoi il est composé, et puis comme ça, on aura des connaissances en direct de la nature du Soleil, ce qu'on ne peut pas avoir autrement pour l'instant. On n'a rien qui nous permettrait d'aller sur la Lune, sur le Soleil. Il fait trop chaud dès que vous approchez du Soleil, tout ça.
Il faut avoir une bonne crème solaire, quoi.
Oui, on va se volatiliser.
Difficile.
Donc, il a eu cette idée de dire, je vais demander, sachant que la NASA envoyait des astronautes qui allaient déposer un drapeau américain. Alors, il leur a dit, vous envoyez un drapeau américain, pourquoi vous n'envoyez pas aussi un détecteur qui aura la forme, effectivement, aussi d'une surface, comme un plan. Et donc, il n'a pas dit comme ça, vous allez joindre l'utile à l'agréable.
Mais c'était le message.
Mais c'était le message. Il a dû beaucoup insister. Ils ont accepté. Les cosmonautes ont pris un détecteur. Ils sont allés le porter sur la Lune. Ils l'ont laissé un an. Et ils sont revenus. Ils l'ont ramené. Et ils ont pu réussir à dire de quoi est composé le Soleil.
Okay.
Et en particulier, le vent solaire, il est composé pratiquement que d'hydrogène et d'hélium. Mais il y a deux variétés d'hélium. Il y a ce qu'on appelle l'hélium-4 et l'hélium-3. Et on connaissait l'hélium-4, mais on n'avait pas vraiment de connaissance de l'hélium-3. Et il a pu justement mesurer la quantité d'hélium-3 qui arrivait sur la Lune ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec l'hélium-3, vous pouvez faire des réacteurs nucléaires qui sont bien plus efficaces que les nôtres. Sauf qu'il en faut beaucoup d'hélium-3. Bon, il y en a beaucoup. ça n'a pas été vraiment développé. Je soupçonne que ça n'est pas financièrement intéressant. Si ça avait été très développé, ce serait déjà fait. Mais enfin, c'était une idée qui se développait à cette période-là. Et donc, cette expérience a été faite. Mais nous, ça nous intéressait surtout parce qu'on voulait savoir de quoi était composé le Soleil. Et cela nous a permis, bon, je ne vous dirai pas comment ça s'est passé, de déterminer que l'univers n'était pas infini. Pas infini. L'univers est composé de matière ordinaire, nos atomes, et puis aussi la matière sombre, les énergies sombres. Vous avez probablement entendu parler de ces composantes. Bon, c'était une façon de pouvoir estimer la densité de l'univers. C'était intéressant. Simplement, d'aller déposer quelque chose sur la Lune pour avoir des atomes du Soleil qui permettaient, par leur abondance relative, de donner des informations sur ce qui se passait dans le Soleil et ce qui était possible à obtenir comme énergie nucléaire venant directement du Soleil, c'est-à-dire par ces atomes-là. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce travail.
Donc en fait, le drapeau qu'ils ont planté,
oui,
c'était...
Il était à côté du drapeau américain. Ils ont planté le drapeau américain. Okay. Et puis, ils ont mis à côté, c'est une feuille d'aluminium. Ce détecteur-là est une feuille d'aluminium. Okay. Parce que les atomes qui viennent du Soleil sont absorbés.
Ça grippe.
Et ensuite, on ramène l'hélium et
Mais donc, l'univers est infini, c'est faux, en fait.
L'univers est peut-être infini. Il y a de faibles raisons de penser que oui. Mais elles ne sont pas très convaincantes.
Okay.
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut affirmer. C'est oui, mais, vous savez, très souvent,
c'est moins.
Les idées de... Un de nos devoirs, c'est de juger de la crédibilité d'une idée. Si je vous dis l'univers est infini, je dois vous dire quelle est la crédibilité, tenant compte de ce que nous connaissons à la fois des observations et des théories. Je vous dirais, ce n'est pas très fort, l'idée que l'univers est infini. Il n'est peut-être pas. On penche plutôt du côté qu'il l'est. Mais on ne l'affirme pas. Si je vous dis que la Terre est ronde, vous me direz, mais il n'y a pas de problème. La crédibilité...
Et encore, il y en a qui ne seraient pas d'accord.
Il y en a qui arrivent à dire le contraire.
Il y a les... Comment est-ce qu'on s'appelle?
Les platistes.
Les platistes. Oui, il faut être un peu cinglé, mais enfin...
vous êtes né 2 mois et 10 jours avant la création de l'Arabie Saoudite.
Ah! Eh bien, il faudrait que je sache... la date de création de l'Arabie Saoudite.
Eh bien, figurez-vous que c'est le 23 septembre 1932.
Ah.
On n'est pas loin, non ?
On n'est pas loin. Oui.
Est-ce que Tom ne vient pas de vous apprendre quelque chose ? Est-ce que Tom, t'as pas rempli ta mission ?
Est-ce que je vous ai pas appris que la création de l'Arabie Saoudite date du 23 septembre 1932 ?
Oui, vous m'avez appris ça.
Bon, mais moi, je vais m'arrêter là. C'est bon, j'ai réussi mon émission.
Bon, très bien.
En récompense de vos nombreux travaux, vous avez reçu... plusieurs prix et distinctions, dont entre autres vous avez été commandeur de la Légion d'honneur en France, compagnon de l'Ordre du Canada, grand officier de l'Ordre national du Québec. Vous avez également reçu le prix Albert Einstein en 2001.
Oui, avec Geiss justement.
Avec Geiss.
On a reçu tous les deux pour ce travail.
Et en 2008, vous avez reçu le Ballon d'Or.
Le Ballon d'Or.
Qui récompense le meilleur footballeur de la planète.
C'est pas mon domaine.
Ok, pas bio du coup.
Non.
Et vous êtes président d'honneur de l'Agence française pour la biodiversité.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer un peu quel est le but de cette Agence française pour la biodiversité ?
Oui, c'est analogue à ce que je vous ai raconté des Américains avec la NASA, dans le sens qu'il y avait plusieurs agences qui touchait à des domaines très voisins, des agences sur l'eau, sur la pêche. Et donc, c'est pour ne pas multiplier les tâches et avoir plus d'efficacité. Le gouvernement a décidé de faire une agence pour la biodiversité qui regroupe ces différents, dont maintenant aussi la chasse et les forêts.
D'accord. OK.
Eh bien, je pense qu'on attaque le cœur...
Oui.
Le cœur du meilleur du Bear Reeves.
Oui, exactement. Donc, comme on vous l'a dit, on va vous poser plusieurs questions qui s'articulent autour du même énoncé qui va être le meilleur ou la meilleure quelque chose. Cyrus, je te laisse ouvrir le bal.
Ouais, et je pense qu'en fait, on en a déjà un peu parlé.
Sauf s'il y a un twist.
Mais la meilleure rencontre professionnelle que vous ayez faite.
Oui, bah c'est le professeur Morrison. Phil Morrison à l'université Cornell dans les années 1955.
Et est-ce que lui aussi il a un astéroïde à son nom ou pas?
J'en sais rien.
Est-ce que c'est une manière un peu de crâner entre les collègues à dire moi j'ai un astéroïde et pas vous?
Il y en a qui le font, d'autres
c'est
non.
C'est vrai.
Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le laissent passer subtilement au bon moment.
Ils ont un t-shirt.
C'est le temps où j'ai reçu mon doctorat ou mon astéroïde. Parce qu'il faut que vous sachiez que moi, je suis quelqu'un. Ça, c'est assez répandu dans nos milieux.
Ok. Quelle a été pour vous la meilleure découverte que vous ayez faite?
Ben, vraisemblablement, ce travail que j'ai fait avec le professeur Geiss, oui, effectivement. Ça, je dirais que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'abondance des éléments chimiques, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est que les atomes, les fameux atomes, n'existaient pas au tout premier temps du cosmos. Ils ont été faits dans les étoiles. Et donc, il y a un moment donné, le travail consistait à dire quel type d'étoile fait du fer, quel type d'étoile fait de l'uranium.
D'accord.
Et donc, c'est un travail dans lequel j'ai joué un rôle, mais on est toujours plusieurs. J'ai eu des étudiants, c'était pas quelque chose. Mais c'est là-dedans que j'ai beaucoup travaillé aussi. Ce que nous apportait comme information sur l'univers ou sur les étoiles, le fait qu'il y ait deux fois plus de carbone que d'azote, par exemple, c'est un petit peu ce genre de travail que j'aimais beaucoup faire. À partir de quelques chiffres, d'en déduire des choses sur la réalité. Le fait que tel élément soit plus abondant que tel autre pouvait donner quelque chose comme information sur la nature des étoiles qui les ont fabriquées. C'est un peu ça qui a été mon travail.
Il y a une théorie que vous développez de temps en temps qui vous racontait que donc nous, les humains, nous sommes faits de particules d'étoiles.
C'est ça.
C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire que le corps humain, il est fait surtout d'oxygène, 60%. Il y a beaucoup de carbone, il y a beaucoup d'azote, et puis il y a plusieurs éléments. Et donc l'idée, c'est de dire, quand vous touchez à votre corps, quand vous douchez votre corps, vous douchez des atomes qui ont été faits dans des étoiles il y a plusieurs milliards d'années. Donc nous sommes les enfants des étoiles. C'est de créer ce lien entre ce que nous apprend la physique et la réalité. Si vous vous demandez, oui, j'ai un corps humain, c'est une merveille fantastique, ça vous permet d'être intelligent, tout ça, mais d'où vient ce corps humain? Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Quelle est son histoire à partir du moment où se fabriquent les étoiles, se fabriquent les atomes dont il est fait et tout ce qui s'est passé? On peut remonter aujourd'hui à ce qu'on peut appeler, on peut l'appeler ça, l'infrastructure de la conscience. Comment vous faites pour avoir une conscience? Vous avez un cerveau, dans ce cerveau, il y a des atomes. C'est l'agencement de ces atomes qui vous permet de réfléchir. Donc, on peut dire, nous sommes des poussières d'étoiles. C'est ça qui est l'intérêt de ces découvertes qui, au départ, ça arrive souvent que les découvertes scientifiques qui sont faites dans un but très particulier qui ne semble pas avoir une grande portée, tout d'un coup, on découvre, mais si, il y a une grande portée, il me raconte d'où je viens. Que demande le peuple? Savoir d'où nous venons, comment il se fait que nous sommes ici aujourd'hui.
Bien sûr.
Et maintenant, nous savons que les antécédents de ce qui fait notre présence ici se remontent dans le ciel, dans les étoiles, dans les collisions de galaxies. On voit un peu souvent dans l'espace des collisions de galaxies, des galaxies qui se rentrent dedans, qui se déforment complètement. Ce que nous savons maintenant, c'est que ces collisions de galaxies produisent la naissance, ont pour résultat la naissance de quantités de nouvelles étoiles qui s'appellent des étoiles géantes bleues. Par exemple, si vous regardez Orion, si vous êtes familier avec les trois rois mages, ce sont trois géantes bleues, ce sont les grandes productrices d'oxygène. Et donc, la collision des galaxies a produit des étoiles géantes bleues qui ont produit de l'oxygène, qui, à la mort d'une étoile, de l'étoile s'est répandue dans l'espace, qui a été repris en charge quand le système solaire s'est formé, qui a été intégré dans la Terre, que vos grands-parents ont mangé sous forme de je ne sais quoi qui avait de l'oxygène. Et l'eau, évidemment, l'eau, c'est H2O, c'est de l'hydrogène, oxygène. Cet oxygène-là, il a été fait par des étoiles géantes bleues. Donc, c'est donner quelque chose d'une sorte de continuité à notre existence, montrer comment nous sommes intégrés dans cette vaste aventure de l'univers qui a amené la matière à se structurer, à devenir des étoiles, et ensuite des planètes, et ensuite de la vie, etc. Je pense que quand on sait ça, quand on dit aux étudiants ce que vous raconte la physique et la chimie, ça parle de vous. C'est pas purement abstrait, comme vous apprenez, je ne sais pas, les mathématiques. Bon, les mathématiques, c'est bien, mais ça ne vous parle pas vraiment de vous. C'est pas ça, avec ça que vous allez emballer les étudiants.
Et mieux comprendre qui on est, etc.
Exactement. Et ce qui se passe. Donc, l'astronomie nous apprend des choses sur notre passé. Moi, j'aime beaucoup dire l'astronomie, les deux domaines qui m'intéressent particulièrement, c'est l'astronomie et l'écologie. L'astronomie, elle vous dit d'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé du cosmos pour que vous soyez ici avec votre corps qui est capable de réfléchir, etc., etc. L'écologie, elle vous dit, mais attention, c'est pas garanti. Okay. C'est-à-dire, elle vous parle du futur. Elle vous dit, si vous voulez que vous et votre espèce restent ici, que la Terre soit encore habitable, eh bien, il faut faire quelque chose. Voyez, donc l'astronomie, c'est le passé, l'écologie, c'est le futur.
Je vous ai entendu dire ça dans une émission que je regardais ce matin et ça m'a marqué aussi comme phrase.
Et peut-être du coup, tant qu'on est sur cette thématique, quelle est selon vous, si on continue à parler un petit peu d'écologie, aujourd'hui, quelle est pour vous la plus grande inquiétude concernant le futur de notre planète ?
Avant, je vous dirais d'abord
c'est
une chose...
C'est même pas écologique, d'ailleurs. Hein,
oui, ou autre chose, pardon.
Je vous dirais une chose qui est importante, c'est de savoir, d'une part, que nous sommes en danger. Qu'est-ce qui est le danger pour nous? Il y a deux éléments qui sont dangereux. Il y a, rappelez-vous, la guerre froide. La guerre froide, pendant une trentaine d'années, on est passé très près d'une élimination. À certains moments donnés, comme à Berlin ou dans d'autres cas, on est venu tellement près d'une élimination qu'on se demande comment on en est sorti. Parce qu'il y avait suffisamment d'armes, les militaires, qui n'ont pas toujours le sens de l'humour, ont défini une réalité qui est « overkill power ». Ça veut dire, avec les armes que nous avons de stocker ici, combien de fois on pourrait tuer tout le monde? Non, ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Ça vous parle de la... Eh bien, ce nombre-là, qui a cru progressivement à partir de la fin de la guerre, est passé par un maximum autour de 1977, 17 000. On pouvait tuer tout le monde 17 000 fois avec les bombes atomiques qu'on avait.
Ça, il ne faut
pas l'oublier. Il faut retenir ça. Il faut en retirer la leçon. La leçon, c'est qu'il faut absolument se débarrasser des armes nucléaires. Aujourd'hui, ce n'est pas si sûr parce que ça revient avec M. Trump et le président de la Corée du Nord. C'est revenu. Eh bien, je pense que ça, c'est le premier danger. Nous avons de quoi... On a beaucoup diminué maintenant. Je crois qu'on a diminué le nombre d'armes atomiques, de bombes atomiques, entre les États-Unis, la Russie. Oui, la Russie. On a diminué à peu près de moitié. Donc, ça va, c'est sur la bonne voie, mais la moitié de 17 000, c'est encore un chiffre assez gros. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien, c'est évidemment le fait que nous détériorons la planète. Qu'est-ce que nous raconte la sixième extinction? Qu'est-ce que nous raconte l'écologie? C'est que aujourd'hui, nous sommes extrêmement puissants. Nous sommes capables de réchauffer l'océan. Pensez-y. Réchauffer l'océan. C'est pas rien. Rappelez-vous vos voyages en avion quand vous regardez par la fenêtre et que vous voyez l'eau. Il y en a de l'eau. Si vous vous dites, on est en train de réchauffer et d'acidifier tout cela. Donc, le premier danger, c'est que par notre intelligence, c'est pas dans la nature les bombes atomiques. C'est nous qui les faisons. Eh bien, par notre intelligence. Notre intelligence est tellement grande que nous sommes capables de nous éliminer aussi bien par le nucléaire que par la détérioration, la sixième extinction. Donc ça, c'est, je dirais, l'objectif le plus important aujourd'hui, c'est de garder la planète habitable. Habitable et agréable. Ça, c'est fondamental. C'est tout à fait à l'ordre du jour. C'est fondamental. C'est... Alors, j'étais amené à penser à une autre idée. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est que nous traversons une crise parce que notre puissance nous menace et nous avons beaucoup de difficultés à nous empêcher de nous éliminer. Aussi bien par les armes nucléaires, on en garde encore beaucoup, que par la détérioration, le réchauffement, l'érosion de la biodiversité et tout ça. Donc, nous sommes, je dirais, devant un examen de passage. L'examen de passage, les êtres humains sont ici depuis 2 millions, 3 millions d'années. Au début, ils développaient des armes pas tellement puissantes, de quoi manger, ne pas être mangé. Nos ancêtres développaient des fronts, des fusils, des dards, et puis après ça, ils ont développé des mitrailleuses, des canons et des armes nucléaires. Donc, nous sommes menacés par notre propre influence, par notre propre armement, et nous devons dépasser, quand je dis un examen de passage, c'est comment une civilisation qui est arrivée à ce point d'avoir développé suffisamment de possibilités pour se détruire elle-même, comment elle arrive à coexister avec cela, comment elle arrive à ne pas s'éliminer elle-même. Aujourd'hui, c'est la crise principale. Alors, nous allons étendre ça à l'espace. Comme vous savez, nous savons qu'il y a beaucoup d'étoiles qui ont des systèmes planétaires comme le nôtre, ce qu'on appelle des exoplanètes. Et ces planètes-là, on essaie de savoir si elles sont habitées ou non. On va peut-être y arriver, peut-être elles le sont, peut-être elles le sont pas. À mon avis, elles le sont. Bon, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de vie intelligente dans l'univers, mais je n'ai pas de preuves, donc ce n'est qu'une opinion que je donne comme ça. Imaginons que ce soit le cas. Imaginons qu'il y a énormément d'exoplanètes. Imaginons maintenant que sur ces exoplanètes, il s'est passé à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire, la vie est apparue, la vie s'est développée, des êtres intelligents se sont développés, ces êtres intelligents ont développé la technologie, on a découvert l'énergie nucléaire, c'est à peu près sûr qu'on y arriverait à un moment donné. Et donc, ce qui veut dire qu'il y aurait cet examen de passage qui est le nôtre, que nous vivons aujourd'hui, aurait pu être passé dans le passé ou peut-être sera passé, avoir à passer à l'avenir, que ce soit une sorte d'examen de passage cosmique. Ce serait de dire que toutes les planètes sur lesquelles la vie se développe d'une façon analogue à chez nous, ce qui n'est pas sûr mais possible, auront un jour ou l'autre à rencontrer cet examen. Et donc, à ce moment-là, on aurait l'image que supposons qu'on aille se balader, voir un petit peu des touristes cosmiques qui se baladent dans qui regardent les différentes exoplanètes, ils verraient deux choses. Ou bien des planètes qui sont éteintes, où la vie s'est éteinte et où on retrouve des traces de matériel radioactif ou de phénomènes qui ont amené la destruction. Et d'autre part, des planètes qui ont su dépasser, qui ont appris à exister par eux-mêmes et qui ont pu à coexister avec leur puissance. Et à ce moment-là, on verrait ce que donnera la poursuite de l'imagination, la fabuleuse créativité des êtres humains, c'est-à-dire d'autres Mozart, d'autres Van Gogh, d'autres choses comme ça. Voilà, c'est une image, image du cosmos. Le cosmos est plein de planètes qui ont maintenant ou à l'avenir auront à passer cet examen de passage de savoir s'ils peuvent coexister avec leur intelligence, leur puissance et le fait que ces puissances qui jouent un rôle très positif au début, parce que nos ancêtres, il y a 2 millions d'années, ils étaient très mal nantis pour coexister. La vie était difficile, les bêtes sauvages, les hommes primitifs.
Bien sûr, il y a des menaces plus...
Et rencontrer cette autre menace qui est manger ou ne pas être mangé. Si vous n'arrivez pas, vous disparaissez. Manifestement, nos ancêtres y sont arrivés puisque nous sommes là. Mais maintenant, nous rencontrons cet examen qui est de dire, oui, bien sûr, nous avons réussi à dépasser ces difficultés primitives. Nous rencontrons d'autres difficultés et ce qui va se passer, personne ne le sait. Est-ce que nous allons réussir ou non, on ne le sait pas. C'est la grande question. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, heureusement, de plus en plus, maintenant, cette difficulté, cette motivation prend de plus en plus de gens sont conscients, de plus en plus d'éléments positifs se font. Et c'est pas du tout, moi je ne suis pas de l'avis de ceux qu'on appelle l'école psychologue qui disent non, c'est foutu de toute façon. Non, je pense que l'avenir n'est pas connu. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant qui donnent à penser qu'on pourrait réussir. Comment sera la Terre dans 50 ans, personne ne le sait. Ça pourrait être très bien, ça pourrait être très triste.
D'ailleurs, vous parlez à l'instant des différentes initiatives qu'il y a pour protéger la planète et oui. Pour aller dans un sens positif. Selon vous, s'il devait y en avoir une qui serait genre la meilleure, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ou...
Oui, un élément important aujourd'hui, c'est la finance, c'est l'argent. Aujourd'hui, nous observons, nous sommes témoins d'un événement nouveau et qui prend de l'importance. Ça s'appelle le désinvestissement. Beaucoup de pays, les États-Unis, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Italie, en Norvège, les compagnies bancaires qui ont des fonds qui sont souvent placés dans des industries pétrolières. Beaucoup d'universités, beaucoup de compagnies qui ont d'énormes sommes d'argent ont décidé de retirer des banques les argents qui étaient investis pour la recherche pétrolière et le charbon. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, vous êtes amené à interrompre quelque chose qui aujourd'hui est nocif. Et l'argumentation des compagnies, c'est parti surtout aux États-Unis, à l'université Stanford, à Berkeley, à beaucoup d'universités, c'est ce fait de retirer les fonds qui sont dans des compagnies pétrolières en disant ceci, et c'est pas faux. Aujourd'hui, on sait que le réchauffement climatique va tuer beaucoup de personnes. Peut-être des millions de personnes dans les pires cas, mais c'est quelque chose à ce niveau. Entretenir une industrie qui peut être considérée en ce sens comme criminelle, c'est bien, c'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui prend du poids aujourd'hui, un peu partout, de dire il faut laisser le pétrole dans le sol, le charbon dans le sol, parce que si on retire tout le pétrole, tout le charbon qu'il y a dans le sol, la température va augmenter de jusqu'à 7 degrés. À 7 degrés, c'est ingérable. À 7 degrés, des tempêtes comme il y en a eu récemment, c'est rien du tout. Des étés comme on a eu cet été, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est littéralement criminel, c'est-à-dire développer une industrie dont on sait qu'elle va amener la mort de beaucoup de gens. Et ça, cet argument commence à prendre du poids. Et je crois beaucoup aux banques pour développer ce point.
Donc, du coup, d'un côté de la finance et de la banque, d'arrêter d'investir dans ce business-là. Donc, si je résume un petit peu ce que vous dites, une des initiatives qui peut être les plus importantes, c'est peut-être d'arrêter les énergies dites fossiles et de se focaliser sur une nouvelle source d'énergie, donc énergie solaire et ce type-là.
Oui, absolument. L'énergie solaire, alors je vais vous dire, l'énergie solaire, elle est sans problème. Il y a un problème. Elle n'est pas dangereuse comme il n'y a pas de Tchernobyl ou de Fukushima
non,
avec l'énergie solaire.
On est tranquille.
Mais il y a une chose, c'est. Le soleil, nous envoie beaucoup d'énergie. 10 000 fois plus que ce que nous utilisons à l'échelle mondiale. Ça semble peu d'avoir à retirer un 10 000e de l'énergie du Soleil. En pratique, c'est beaucoup. En pratique, on n'a pas encore la capacité technologique de le faire. C'est un problème, mais c'est un problème auquel on peut s'attaquer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une motivation pour créer des emplois, développer des industries dont le but est d'augmenter notre capacité de produire de l'énergie en provenance du soleil. Et ça, je pense que c'est un élément positif. Souvent, les crises comme celles que nous traversons ont beaucoup d'éléments négatifs, mais celle-là a cet élément positif de dire les êtres humains ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité, d'innovation, d'imagination. Là, à l'œuvre, le point le plus important, c'est d'augmenter la capacité de récupérer l'énergie solaire. Il y a beaucoup de façons, avec les océans, avec beaucoup d'éléments. On pourrait le faire aujourd'hui, mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Si on veut que ça, le prix baisse, il y a une solution, c'est celle qu'a employée Ford. Ford, quand il est arrivé, les voitures coûtaient très cher. Il a investi beaucoup pour augmenter le nombre de voitures, ce qui fait baisser, le prix. Aujourd'hui, je pense que les subventions au public pour qu'ils aient chez eux des éléments de récupération de l'énergie solaire, mais aujourd'hui, ils ne pourraient pas se le payer. Mais moi, je pense, je rêve d'une subvention donnée à tous les gens qui sont prêts à travailler sur ce plan, de se produire des petites... Je sais que ça a été proposé à un moment donné, ça a même marché pendant un certain temps, mais après, et à un moment donné, ça a été abandonné parce que le ministère des Finances était perdu, enfin, ça a produit des situations assez catastrophiques.
Je reviens sur ce point énergétique parce que c'est très discuté, ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, le solaire ou l'éolien, ça produira jamais assez d'énergie et que c'est une, entre guillemets, une fausse piste, quoi, entre gros guillemets.
Mais c'est des gens qui font des prophéties. Ils disent on n'ira jamais. Ça, c'est une prophétie.
Oui, en fait, ils disent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les bilans énergétiques, etc.
Oui, mais à l'avenir, vous voulez dire à l'avenir. On n'y arrivera jamais. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est sûr. On ne récupère pas assez d'énergie solaire. Mais le futur. Le futur de l'énergie solaire, c'est qu'il y a eu un phénomène absolument fabuleux. En 25 ans, la quantité d'énergie solaire qui a été fabriquée est bien au-delà de tout ce qui a été prévu. C'est absolument fabuleux. Quand on voit les courbes qui étaient prévues et celles qui sont aujourd'hui, c'est des facteurs 10 de plus.
Okay.
Donc, toujours, il faut dire que personne ne connaît l'avenir et prétendre connaître l'avenir pour dire que des choses, ça me paraît une mauvaise idée.
Oui, il n'y a pas eu des cas qui se sont bien passés dans ce sens-là. On parlait des platistes tout à l'heure. Mm-hmm.
C'est quoi pour vous, j'y vais, Tom, je
peux. Oui, vas-y, vas-y, c'était un pont, Cyrus. Ah, c'est une forme de passe décisive.
J'ai commencé à marcher sur le pont.
Oui,
moi, je t'ai regardé, genre, t'es sûr que c'est
vas-y,
pour moi.
C'est okay. Sûr, le pont est solide.
Le pont est solide. C'est quoi la meilleure idiotie que vous ayez entendue?
Alors, la meilleure idiotie, c'est de dire, à cause des problèmes écologiques, la sixième extinction, il faudra tous développer, partir sur d'autres planètes. Ça a été dit par un grand physicien qui est Stephen Hawking.
Ça clash.
Alors, évidemment, ça oublie le fait que si on n'a pas appris à résoudre nos problèmes chez nous, on va faire la même chose ailleurs. Donc, à quoi ça sert d'aller vers d'autres planètes, même si on était capable, si on recommence à faire ce qu'on a fait ici? Ça, moi, ça m'a paru difficile à accepter.
Vous avez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le bio ou pas bio, vous avez énormément de distinctions. Bon, pas le ballon d'or.
Non, mais, non.
Pour l'instant.
Mais, pour l'instant.
Après, pour l'instant, oui, on ne sait jamais.
Mais c'est quoi, selon vous, la meilleure distinction que vous ayez reçue?
Ben, la meilleure distinction, c'est peut-être cette météorite, mais parce que c'est par des étudiants qui m'ont apprécié. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est parce que c'est une théorie, je ne la verrai jamais, personne sans doute ne la verra jamais,
mais on espère
que les étudiants aient proposé mon nom, j'ai trouvé ça sympathique.
Ça, c'est beau, ça.
Ouais. Du coup, donc, on l'a dit également, vous avez écrit, rédigé et publié plusieurs œuvres. Vous avez aussi une carrière audiovisuelle avec des émissions de télé, etc. Quelle est, parmi toutes les œuvres que vous avez créées, que vous ayez créées, pardon, ou produites, celle qui est la meilleure, selon vous ?
Ben, c'est aussi une question de temps. Je dirais « Patience dans l'azur », qui a été publiée en 1980, était publié à une période où il y avait très peu, en France du moins, et ailleurs dans le monde, d'écrits qui reliaient les résultats scientifiques à des problèmes personnels, c'est-à-dire d'où je viens. La grande question, la question des origines, a toujours été vécue un peu partout. Tous les peuples cherchent leur origine. Mais ça n'avait pas été ça avait été signalé par comment est-ce qu'il s'appelle j'oublie son nom ça avait été très peu signalé, très peu de gens avaient
Carl Sagan,
Carl Sagan, oui, Carl Sagan.
Oh, bien joué.
Allez.
Oh, tu m'impressionnes, hein.
C'est vrai.
Ah ouais,
okay. Bravo.
Ouais,
oui, non, Carl Sagan, il y a cette idée. Mais c'était très peu connu ici. J'ai vu, parce que le livre a eu beaucoup de succès, que beaucoup de gens, j'ai eu un courrier du tonnerre avec beaucoup de gens qui me disaient « Votre livre a changé mon existence, je ne pensais pas que d'apprendre ça, ça m'a beaucoup aidé. » J'ai même vu un jour, je faisais une conférence, et à la fin de la conférence arrive un homme dans une chaise roulante, un fauteuil roulant, qui m'a dit « Si j'avais pas entendu ce que vous racontez, il y a longtemps que je me serais suicidé. » C'est impressionnant.
Retour assez impressionnant.
Ouais.
Ouais, c'est fort.
Donc, patience dans l'azur.
Oui, je dirais, oui.
Ok.
Vous avez 4 enfants.
Oui.
Et, enfin, 4 enfants, du coup, il n'y a pas la liaison.
Oui.
Si vous... tout ce que tu m'as impressionné il y a 10 minutes, c'est vient de s'écrouler.
Oh ouais. là, ça n'a même pas tenu.
Mais pendant 5 minutes, vraiment, je t'ai estimé beaucoup.
Vous avez 4 enfants et 8 petits-enfants. Et du coup, avec Tom, on se demandait, c'est quoi, selon vous, la meilleure qualité à transmettre à un enfant ?
Alors, la meilleure qualité, moi, je dis souvent aux parents d'amener les petits-enfants dans la nature. Ça développe, parce que les enfants sont sensibles à ce qui importe pour les parents. Si les parents décident qu'ils ont du goût pour la nature et que les enfants sentent ça, c'est quelque chose qui est assez contagieux. C'est pas de faire des cours dans la maternelle aux enfants pour leur parler d'écologie et tout ça. C'est pas dans le mental, mais c'est dans l'affectif. Les enfants aiment ce que leurs parents aiment et reçoivent ce message et peuvent développer du goût pour la nature de cette façon. Moi, c'est ce que je pense. C'est pas l'enseignement au sens « mettez des cours d'écologie dans les écoles », on peut le faire, mais comme l'école est généralement pas très appréciée des enfants, c'est pas sûr que là, ça va passer. Mais il faut que ce soit les parents eux-mêmes, la famille, les familles qui vivent dans la nature, ou du moins qui vont dans la nature à l'occasion, ou du moins dans laquelle on sent que la nature est importante.
D'accord.
Donc, en gros, que l'apprentissage passe par l'affectif.
Exactement.
Finalement.
Exactement.
Et donc, une dernière question, Hubert. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui sont potentiellement intéressés par les domaines dont on a parlé pendant cette émission, l'astrophysique, la cosmologie, la nature, plutôt peut-être plus, centrons-nous peut-être plus sur le côté astrophysique et cosmologie, quelle est pour vous la meilleure manière d'apprendre et de se mettre à ces sciences-là quand on n'a plus vraiment l'âge d'aller à l'école ?
Alors, je vais vous raconter une histoire vraie, encore une histoire vraie. C'était une conférence, j'étais en Algérie. Et je faisais une conférence dans une université algérienne. Et puis, généralement, quand je fais une conférence, je sens que ça prend, parce que quand ça prend, quand il y a de l'écoute, les bruits diminuent. Les gens cessent de tousser, de fouiller, de regarder leur téléphone, des choses comme ça. Et là, je ne sentais pas du tout. Je ne sentais pas ça du tout. Je sentais plutôt le contraire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai décidé que peut-être j'étais trop compliqué et qu'il fallait que je sois encore plus simple. J'ai essayé d'être plus simple. C'était encore pire. À un moment donné, j'ai dit aux étudiants, parce que là, il y avait un bruit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Alors, il y en a un qui se lève, il dit, c'est bien vous, ça, les Français. Bon, il ne savait pas que je ne suis pas Français, mais ce n'est pas grave. C'est bien vous, ça, les Français. Vous venez bêtifier ici. Tu vois? Okay. Ce qu'ils me reprochaient, c'est de leur parler comme à des bébés.
Trop simplement.
Trop simple. Et j'avais oublié un élément, c'est que quand tu parles à des Algériens, il faut savoir qu'il y a déjà un contentieux entre les Français et les Algériens, que les Algériens et tout le Maghreb pensent aussi que les Français les prennent pour des bébés. Et j'avais oublié ce phénomène. Et là, j'ai eu cette leçon que j'exprime la façon suivante. Enseigner quelque chose, c'est enseigner quelque chose à quelqu'un.
S'adapter.
Il faut tenir compte du fait de qui est là et qu'est-ce qu'il y a dans le passé. C'est ça, je pense, qui est le plus important pour l'enseignement. À quelque niveau que ce soit, si on enseigne comme font beaucoup de gens qui viennent lire leurs notes, on ne tient absolument pas compte de ce qui... On se sent abandonné et on se sent diminué, considéré comme diminué. Cet homme ne tient pas compte du fait qu'il me parle comme si j'étais une statue. Je crois que là aussi, on retrouve ce domaine de l'affectif. C'est toujours très difficile d'accepter d'être enseigné s'il n'y a pas de l'affectif. Un professeur qui t'agace, tu ne portes pas du tout la même attention qu'à quelqu'un qui arrive, comme Philip Morrison, avec un grand sourire, tout content, on va passer une bonne soirée. Toute cette ambiance qui consiste à dire « je vous parle et vous êtes là ». Souvent, quand je fais des conférences, je dis la question, j'ai dit « est-ce que vous entendez bien ?» Alors, les gens disent oui ou non. Et je leur dis « parce que un jour, j'ai fait une conférence, j'ai dit « est-ce qu'il y a des questions ?» À la fin d'une conférence, j'ai dit « est-ce qu'il y a des questions ?» Et les gens m'ont répondu « ben, on n'entendait rien ».
Ça aurait été bien de le dire au début.
Ça, c'est le... Bah, alors, tout le monde rit.
Votre micro est coupé, monsieur Reeves. Votre micro est coupé depuis le début. Faudrait la refaire.
Tous les gens trouvent ça drôle. Mais à ce moment-là, quand je dis ça, je manifeste que je désire qu'ils comprennent.
Bien sûr.
C'est ça, le message que je fais passer. C'est que je sais que vous êtes là, mais je veux que vous entendiez, parce qu'autrement... Ça, c'est important dans l'enseignement, c'est de faire savoir à la personne qui est là que tu sais qu'elle est là et que ça compte d'être là. Ça, je dirais, pour moi, c'est un des aspects importants de la...
Je vais faire ça sur YouTube maintenant. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est parti.
On est ceux du fond, ils sont pas trop loin, ils se rapprochent. Nickel.
Non, mais cette question, on y a pensé parce qu'on a un ami qui s'appelle Pimpin. Enfin, il s'appelle pas vraiment Pimpin, mais on l'appelle Pimpin.
C'est la troisième fois, je pense, qu'on le cite dans cette émission.
C'est vrai?
Et ouais, alors qu'il nous écoute jamais. Mais bon.
Et qui s'est mis un peu à l'astrophysique à notre âge. C'est-à-dire qu'il est retourné.
Oui, il s'est inscrit à la faculté pour suivre des cours d'astrophysique et tout ça. Et c'est vrai que.
À côté de son travail, ouais.
Ça peut paraître assez dense comme discipline, comme beaucoup de disciplines qu'on ne connaît pas. Et c'était de se dire, est-ce qu'il y a peut-être un ouvrage que vous recommandez à lire en premier quand c'est quelque chose qu'on veut découvrir et qu'on ne connaît pas du tout. Est-ce que vous conseillez une lecture?
À part Patience dans l'Azur, que déjà on a noté.
Oui. Mais alors à quelqu'un qui ne connaît vraiment rien.
Ouais, qui va dire ça va être le premier livre que je vais lire qui va me parler d'astrophysique et de l'espace.
Bah, par exemple, bon, excusez-moi de me citer encore.
Non, mais c'est normal, vous êtes.
Vous en avez écrit beaucoup aussi.
Et puis c'est votre métier, donc.
Oui.
C'est un petit livre qui s'appelle qui est dans une collection qui s'appelle ça s'appelle Les grands-parents. Qu'est-ce que c'est la collection?
C'était un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous pour ce premier format.
Ouais, premier épisode de ce nouveau format.
Exactement. C'était hyper intéressant. On a beaucoup voyagé. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ouais. On se retrouve. Où est-ce qu'on, si les internautes veulent vous suivre et suivre votre actualité.
Ah, j'ai un site.
Ok.
www.hubertreeves.com.
C'est .info, non?
Non, c'est info. Oui, info.
Ouais. Je l'ai utilisé pour faire mes
recherches. Oui, c'est ça, c'est point info. Je l'ai aussi.
Ouais. On mettra
donc,
en description.
Toute votre actualité, vos tout ouvrages, ça, tout est disponible ici.
Oui, tout à fait.
Et nous, Tom, on se retrouve.
Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Parfait.
Merci beaucoup, Hubert, de votre temps et de votre disponibilité.
Un énorme merci. C'était un plaisir.
Merci. Merci. Moi aussi, j'ai trouvé sympathique notre conversation.
Très gentil.
Merci beaucoup.
Très gentil.
Merci
beaucoup.
Cyrus merci d'avoir
toi, Tom,
fait ce nouveau format également. Et ouais, merci à vous de nous écouter à chaque épisode. C'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous.
On se voit très bientôt.
Ouais. Très bonne journée à tous.
Très bonne journée. Et du coup, on ne chante pas.
Non, on n'a pas encore de chanson.
On va y travailler. Mais on va y travailler.
On va y travailler. Vous inquiétez pas.
Bisous.
Bisous.